Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette soirée hommage à Sam Shepard. J'ai le plaisir d'être pour cette occasion accompagnée de Rodolphe Barry, auteur d'Une lune tatouée sur la main gauche, publiée aux éditions Finitude, et du comédien Jean-Philippe Ricci, qui nous fait ce soir le bonheur de lire des extraits de ce livre passionnant. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Nous
et
aurons
à toutes. Bonsoir.
Également la chance d'entendre un texte de Patti Smith, traduit en exclusivité pour le Marathon des mots par Nicolas Richard. Mais je vous propose de tout de suite écouter Jean-Philippe Ricci nous lire les tout premiers mots d'Une lune tatouée sur la main gauche, le début du premier chapitre qui a pour titre « La tristesse sauvage de quelque chose de perdu ». Jean-Philippe, on vous écoute.
Une sonnerie de téléphone qui insiste pour vous tirer du sommeil n'est pas de bon augure. La plupart des nouvelles peuvent attendre. Je me lève, la tête pleine de confusion et la boule au ventre. Derrière les baies vitrées du salon, la pleine lune fait office de veilleuse. Découvrir que le numéro qui s'affiche sur l'écran du portable est celui d'un ami en résidence à Washington, D.C. est un soulagement. Ouais, salut. Il est 3 heures ici. Je le sais, excuse-moi. J'ai pensé que je devais t'appeler. Attends une seconde. Vas-y, je t'écoute. Sam Shepard est mort. L'annonce tourne en boucle sur les chaînes d'infos du pays. Les réactions se succèdent. Acteurs et écrivains lui rendent hommage. Val Kilmer a fondu en larmes en plein direct. Tu devrais jeter un œil sur CNN. Je savais que ça allait te remuer. Je mettrai des exemplaires du Post et du New York Times de côté. Les journaux français relayeront l'info dans la matinée. Je vois déjà les articles. Sam Shepard, acteur connu pour ses rôles dans Les Moissons du Ciel et L'Étoffe des Héros, dramaturge célébré et compagnon de l'actrice Jessica Lange, s'est éteint à l'âge de 73 ans. Ça n'ira pas loin. Je n'entends plus la voix de mon ami. Je sens seulement la morsure et la tristesse sauvage de quelque chose de perdu. Que Sam Shepard existe sur Terre était une pensée réconfortante. L'air de l'époque ne convient pas à tous les poumons. Ces livres distillaient ces bouffées de liberté qui réveillent, libèrent et même inspirent. Je dis au revoir, à bientôt et raccroche. Le sang qui pulse dans mes veines se connecte aux étoiles qui palpitent dans la nuit. Au cœur de cette nuit d'été, je me rappelle sa présence intense, minérale, son visage buriné, ses yeux bleus scrutant mon regard. J'entends sa voix basse à l'accent du sud. Je revis ses silences, aussi impressionnants qu'un sermon.
Rodolphe Barry, votre roman commence donc avec l'annonce de la mort de Sam Shepard, puis votre narrateur va raconter comment il est parti à sa rencontre, et avant même qu'il se trouve face à lui, il le sait, il le sent, et là je vous lis, « Ma seule certitude est que la décision de débarquer ici, il le rejoint sur un tournage, est de celle qui change tout, de celle qui s'impose et qui font que tout prend sens. » C'est vraiment un moment essentiel dans sa vie, là où il va le rejoindre parce qu'il sent qu'il a des choses à lui dire. Et d'un seul coup, face à cet homme, il sent qu'il va vouloir aller plus loin, aller chercher ce qu'il y a derrière l'image, puisque quelque part, Sam Shepard incarne malgré lui une sorte de mythe américain.
Bah oui, c'est ça. Il y a une nécessité d'aller rencontrer cet homme, peut-être d'aller lui dire des choses ou d'en entendre. Et je crois que c'est aussi une façon de s'approcher de lui, de le rencontrer et de découvrir pourquoi cette fascination pour cet écrivain. Parce qu'il faut dire que pour ce narrateur, donc pour moi en l'occurrence, Sam Shepard est avant tout un écrivain. C'est pas la star de cinéma que tout le monde connaît, qu'il va rencontrer. Mais c'est l'écrivain qui lui a donné envie d'écrire, qui l'a mis sur le chemin de l'écriture. Et c'est quelqu'un qui représente beaucoup pour lui, pour moi. Et cette rencontre, elle est nécessaire parce que peut-être Sam Shepard, à l'époque, à 70 ans environ, il est déjà un petit peu fatigué, il est malade. Et il sent que c'est le moment ou jamais d'aller le rencontrer, d'aller s'approcher de lui, de le comprendre.
Et vous le disiez, beaucoup de personnes le connaissent comme acteur. Et ce que vous racontez aussi, c'est justement ce rapport au cinéma. Vous avez vraiment voulu faire le portrait de Sam Shepard comme écrivain. Et finalement, Sam Shepard a toujours considéré le cinéma comme un moyen de gagner de l'argent pour continuer à écrire. Et d'ailleurs, il n'a jamais particulièrement soigné sa filmographie.
C'est ça, c'est vraiment l'écrivain que je suis allé rencontrer. Sam Shepard est connu en France pour quelques rôles célèbres, l'étoffe des héros, bien sûr, les moissons du ciel, et puis d'autres. Mais c'est avant tout un pur écrivain. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à l'écriture, depuis très jeune, et qui n'a fait que ça toute sa vie. Il a écrit, on ne le sait pas ici, mais plus de 50 pièces de théâtre, qui fait qu'il est encore aujourd'hui le dramaturge anglophone le plus joué dans le monde. Et évidemment, on ne le sait pas en France. Il a une œuvre vraiment conséquente, 6 recueils de nouvelles, de textes brefs, une correspondance, puis des poèmes qui vont paraître bientôt. Et c'est vraiment une œuvre importante et surtout un écrivain de premier plan, un écrivain que je considère comme un des plus grands. Je le mettrais à l'égal d'un Raymond Carver, par exemple. Et évidemment, on ne le sait pas en France, ça, parce que toute cette partie a été un peu occultée par son image d'acteur. Alors qu'aux États-Unis, il est d'abord reconnu comme écrivain avant d'être un acteur. Et toute sa vie, il a cherché par l'écriture à mieux se connaître. C'est-à-dire que l'écriture était pour lui un instrument d'exploration intérieure. Il n'écrivait pas des histoires pour raconter des histoires. C'est pas un pur romancier. C'est quelqu'un qui s'est servi de l'écriture pour mieux se connaître, pour aller au fond de lui, pour comprendre qui il était et à travers l'écriture mener ce qu'on appelle une sorte de connaissance de soi. Et ça a été le fil rouge toute sa vie, depuis très jeune jusqu'à sa mort à 73 ans, où il est mort 2-3 jours après avoir terminé son dernier livre, et l'écriture de ce dernier livre, qui est une sorte de testament, le maintenait en vie en quelque sorte. Et c'est vraiment tout ce parcours, toute cette trajectoire d'écrivain que j'ai voulu comprendre et raconter.
Et vous le faites merveilleusement bien. Ça donne très envie de se plonger dans l'œuvre de Sam Shepard. On va revenir sur son écriture, mais si vous le voulez bien, je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait dans lequel il est question de ce que j'évoquais, de cette idée de tourner pour pouvoir se donner la liberté d'écrire. Jean-Philippe.
Tenir un rôle secondaire, tourner quelques semaines au plus, convient à sa façon de vivre. Au-delà, la bougeotte le prend et son besoin de solitude se fait sentir. Il y a trop de gens, trop d'attention, trop de caméras. Il accepte un temps, mais ce n'est pas lui. Il a hâte de se décrasser de cette agitation, de retrouver la main. Je tourne des films pour gagner de l'argent, c'est-à-dire pour pouvoir nourrir mes chevaux et écrire comme je l'entends. C'est devant sa machine à écrire qu'il est présent. Ses signes noirs martelés sur la page le mènent à cette vie cachée qui lui fait voir des choses. Et Sam Shepard a beaucoup vu. Dans sa ferme de Midway, Kentucky, entourée de prairies et de bois sombres, il vit loin de la fanfare et des paillettes. À l'exception du livreur de bois, du vétérinaire ou d'un fermier voisin, il n'est pas le genre à recevoir. Ce que je sais de sa vie, vrai ou faux, a toujours forcé mon respect. En dépit du succès, de la reconnaissance, il est resté insatisfait, toujours en proie à ses démons, toujours en quête. C'est en mouvement qu'il se trouve, qu'il obéit à sa propre loi. Loin de Hollywood et sa devise. Il a décidé très tôt de ne jouer aucun rôle, de ne s'adapter à aucun système qu'il juge erroné. Il sait que la célébrité est une vie vécue en conformité avec un code, un monde où il faut en permanence déchiffrer ce qu'on attend de vous, une pute qui va et vient en relevant sa jupe et vous fait perdre la raison. Pas prêt pour ça. Afin d'esquiver les fouineurs, il se sert d'Épicure, cache ta vie. Pour faire fuir les journalistes, il reprend les mots de son ami Bob Dylan. « Ne me demande rien sur rien, je pourrais te dire la vérité. » Si l'intimité peut se vendre, elle ne se rachète pas. Avec sa machine à écrire, une guitare et des livres pour bagages, il roule seul et sur de longues distances de préférence. Ouvert aux signes, il roule vers la prochaine jonction, le prochain motel, le prochain ciel rédempteur, bien souvent vers nulle part, sa terre promise. Sous le spleen nocturne, tout devient plus pénétrant et incisif. Les visions s'affinent. Des remords plein les bottes, l'ombre de son père alcoolique et violent aux trousses, il distingue parfois son visage dans le rétroviseur. Shepard roule indifféremment jusqu'à un motel sans charme où il s'installe pour enfoncer les touches de son Olympia SM9 jusqu'au lever du soleil. Se trouver là où on écrit ce qu'on écrit, ce n'est pas rien. Dans ses chambres aux odeurs synthétiques de désinfectants sanitaires et de shampoings moquettes, il tape sans fin pour se trouver au fond de lui-même, pour s'atteindre. Des vers grouillent dans nos âmes la nuit. Je ne suis pas toujours quelqu'un de très bien, parfois généreux et bon et ouvert, et parfois, mon Dieu, faites que personne ne s'approche. Pudique, bon, intraitable, il écrit pour son salut, dit-il.
Rodolphe, se trouver là où on écrit ce qu'on écrit, ce n'est pas rien. Sam Shepard écrivait sur ce qu'il vivait, les motels, on l'a entendu dans cet extrait, les déplacements, les paysages, les déserts, c'est une marque de son écriture.
Oui, je crois que le mouvement marque son écriture comme a marqué sa vie. Et il n'écrivait que ce qu'il vivait. Hein. Une grande partie de son œuvre est autobiographique. Enfin, il y a toujours de l'autobiographie dans ce qu'il écrit, un peu de fiction, mais il écrit beaucoup à partir de ce qu'il a vécu. Et c'est quelqu'un qui est en mouvement parce qu'il se cherche en permanence. Alors, il se cherche en écrivant devant sa machine, mais il se cherche aussi en sillonnant les États-Unis, seul, de motel en motel, pour essayer de s'approcher au plus près de la sensation, de ce qu'il y a en lui. C'est à la fois un regard qu'il porte loin devant lui sur les grands espaces, et aussi un regard tourné vers l'intérieur, sur l'intimité. Et c'est ce qui fait la marque de Shepard, qui arrive à embrasser un petit peu ce caractère très américain, typiquement américain, des grands espaces, de la solitude, de l'incommunicabilité, et aussi une profondeur, une sensibilité presque européenne. Sam Shepard a toujours lu les grands écrivains français et les grands écrivains européens. Pas pour rien que Wim Wenders est allé le chercher pour écrire un film Paris-Texas, ou que Michelangelo Antonioni lui a demandé d'écrire le scénario de Zabriskie Point. Il y a vraiment une connexion entre une sensibilité européenne et ce qui incarne l'Amérique au plus profond. C'est peut-être ce qui fait la singularité de Shepard, mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre, parce que je n'arrivais pas à le nommer d'entrée de jeu. Il a fallu que je m'approche, que je rentre dans sa vie, pour découvrir que c'était vraiment ce qui me touchait chez lui et ce qui faisait écho en moi.
Vous écrivez, Shepard est un conteur épique, méfiant vis-à-vis de tout ce qui est trop intellectuel, trop rationnel et attiré par la magie et le surnaturel. Sa poésie précise, dépouillée, a ouvert mon regard sur une autre dimension du monde, un peu plus loin. Dès ses premiers textes, j'ai découvert que la vie et le monde me faisaient un effet identique. Pas besoin d'avoir vécu les mêmes choses pour comprendre ce qu'il raconte. Lui aussi a fixé des vertiges. C'est très beau, cette idée de fixer des vertiges.
Oui, je crois que c'est un petit peu le propre de l'écriture, d'essayer de saisir les choses fugaces, ce qui peut nous traverser, et avec des mots simples. C'est ce qui fait aussi une des singularités de Sam Shepard, c'est qu'il écrit avec les mots les plus simples. Il n'y a rien d'intellectuel chez lui. Et c'est aussi le grand art, c'est de pouvoir dire les choses les plus profondes avec les mots les plus simples. Et c'est une conception de l'écriture à laquelle je suis attaché, qui a tout de suite fait écho en moi. Et pour ça, je parlais de Raymond Carver, par exemple, qui est réputé, connu pour un style laconique très précis. Il y a de ça chez Pard aussi.
Vous évoquiez le chez Pard lecteur. Sa rencontre avec le théâtre de Beckett a changé sa vie aussi.
Oui, quand il est arrivé à New York dans les années 60, le théâtre américain était un peu poussiéreux, un peu conformiste. Et en France et en Europe, l'arrivée des pièces de Beckett a fait exploser un petit peu les conventions. Et il s'est tout de suite retrouvé dans l'écriture de Beckett, qui faisait en quelque sorte exploser le langage. Et ça lui a ouvert à des horizons incroyables. Et il a toujours dit que Beckett avait été un petit peu le déclencheur de son écriture, enfin en tout cas de ses premières pièces. C'est aussi par les thèmes, hein, la vie, la mort en une phrase, la présence, l'absence, enfin toutes les choses essentielles de la vie dites avec des mots simples comme ça.
Et cette idée d'aller vers les purs aussi.
Toujours d'aller vers les purs, et c'est ce que va faire Sam Shepard tout au long de sa vie, qui va commencer par des pièces voilà, je dirais plus alambiqué, et au fur et à mesure que lui-même va se clarifier dans sa recherche de connaissance de soi, son écriture va suivre évidemment, puisque c'est ce que j'aime chez Sheppard, mais aussi chez tous les écrivains que j'apprécie, c'est que la vie et l'œuvre sont la même chose. C'est les deux revers d'une même médaille, c'est une même recherche. Et ça, je suis très sensible.
Je vous propose qu'on écoute deux nouveaux extraits d'une lune tatouée sur la main gauche. Votre narrateur rencontre Sam Sheppard. Ils boivent pas mal. Et à un moment, il se rejoint par Lizzie, la nièce de Sam Sheppard, qui fait le temps d'un tournage office d'assistante. Jean-Philippe.
J'évite les questions. On discute. Certains sujets le font réagir, d'autres pas. La conversation file. Quand j'évoque ses influences, il intervient. Personne ne peut influencer qui que ce soit. Si je ne découvre pas le truc en moi, je ne le trouverai nulle part. Ouais, le style. C'est plus qu'une façon d'écrire. Je ne sais plus qui a dit « le style, c'est savoir qui on est », ou à peu près. Je le crois. Pour lui, c'est toujours l'affaire de la personnalité tout entière. Rien n'est plus rare chez un homme qu'un acte ou une vision qui lui soit propre. C'est une façon de se comporter, d'agir ou de subir. Une femme qui apparaît le matin dans la cuisine sans vous voir, le galop contrarié d'un Mustang effrayé par l'orage. Le style, c'est aussi la manière d'allumer une cigarette ou de boire une bière à la bouteille. Certains font ça très mal, d'autres avec grâce. Regarde les gens allumer leurs cigarettes, tu sauras qui ils sont. Beckett avait du style, c'est sûr. Il a créé sa langue. Pas facile d'écrire sur rien, de dire la vie et la mort dans une même réplique. Un portrait de l'écrivain est punaisé sur un mur de la cuisine où il travaille. Beckett y apparaît perdu dans le néant, résigné, les mains jointes entre les genoux. Croiser son regard l'aide à se ressaisir quand c'est nécessaire. La tête et le sang bien échauffés, on traverse le parc jusqu'à la plage. Dans son peignoir à capuche, Sam a la démarche d'un boxeur un peu sonné. Lizzie envoie valser ses vêtements et file se jeter dans l'eau noire et luisante en hurlant. Nous la suivons. J'ai parfois rêvé d'une longue promenade à cheval avec Sam Sheppard, à travers la prairie du Kentucky ou en lisière du désert au Nouveau-Mexique. Entre nous, peu de mots, quelques regards, une manière précise de se tenir, d'entrer dans la substance de l'espace et du temps. Nous voilà pataugeant dans 50 cm d'eau sous une lune de Floride. Assis dans l'eau, nous restons silencieux. J'enregistre la situation. Près de lui, je pense à lui, à sa vie romanesque et au mystère qui l'entoure. Comment ce type est-il devenu l'idole underground d'une génération 3 ans après être descendu d'un bus Greyhound du côté de Times Square? Comment ce type est-il devenu une star dès son premier rôle? Comment est-il parvenu à résister aux sirènes de Hollywood pour maintenir intact ce qu'il savait être vrai? Il était écrivain? Comment ce type débarqué d'un trou perdu de Californie peut-il écrire 10 lignes à propos du soir qui tombe sur le Rio Grande, 15 sur un couple qui ne se comprend plus, 20 sur ce qui vous assaille sur une route déserte et vous mettre ainsi l'âme à nu? Adulé, postérisé, paparazzé, il ne fuit pas. Il assume la solitude de celui qui crée ses propres règles. Combien sont-ils à tenir une telle position? Lui ne s'est sans doute jamais posé la question. Cette pensée me serre les tempes alors qu'il bouge ses orteils à la surface de l'eau. Quand je n'écris pas, je me sens en stand-by. Très vite, des cafards me courent dans les veines. Il dit ça en sondant l'horizon du regard. Je l'écoute, je m'en voudrais de l'interrompre. Parce que la vie est une entreprise plutôt floue, informe, inintelligible, non ? Et que seules les règles qu'on introduit soi-même lui donnent un semblant d'ordre, un semblant de direction. Peut-être qu'en mettant les choses par écrit, il peut les voir de façon plus objective et faire naître un peu de clarté au milieu du chaos. Certains n'ont que le mot « vérité » à la bouche. Ils cherchent la vérité, comme on chercherait à mettre des éclairs en bouteille. Penser à la vérité ne permet pas de l'atteindre. Il n'est pas guidé par cette foutue quête, non. Selon lui, il y aurait même de quoi éclater de rire à l'idée qu'on puisse vouloir atteindre la vérité dans un domaine aussi fuyant que la vie. Si jamais on doit l'atteindre, c'est sans la chercher. Elle sait où vous trouver. On ne se coltine pas la vérité. On ne va pas au temple, on méprise les grandes occasions. On reste dans une chambre, on se retrouve face à face avec un cougar, on tombe amoureux d'une femme qui n'est pas la nôtre. On ferme les volets, on reprend de l'Alka-Seltzer, on lit une revue spécialisée sur la pêche, à la truite, à la lumière d'une ampoule rouge, la seule que le réceptionniste a trouvée. On reprend la route malgré la tempête de neige annoncée à la radio. Voilà la vérité. Tu en connais une autre, toi ? Un peu de répit, de paix, vaut toute cette vérité.
Rodolphe, vous évoquez dans cet extrait le mystère qui entoure la vie de Sam Shepard. Vous l'avez très, très rapidement évoqué, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Sam Shepard, justement sur sa vie, d'où il vient et comment est-ce qu'il a commencé à écrire ?
Alors Sam Shepard est né en Californie dans les années 40, un petit bled, vraiment la cambrousse, comme on dirait. Et il a une jeunesse et une adolescence un peu particulière parce qu'il s'est vite retrouvé affronter son père. Son père qui était un ancien militaire qui larguait des bombes sur l'Europe pendant la guerre et qui est revenu de cette guerre un petit peu fracassé et qui n'a jamais retrouvé sa place dans la société américaine, comme on l'a vu plus tard pour ceux qui rentraient de Vietnam, qui n'arrivaient pas à se réinsérer. Et donc, il s'est mis à boire beaucoup et à dégager une certaine violence. Et pour Shepard, ça n'a pas été simple. Donc, il y a eu beaucoup d'affrontements. Et il aimait beaucoup sa mère. Il était très proche de sa mère, mais avec son père, c'était souvent la corrida. Donc, le plus tôt il est parti, et plus tôt c'était mieux pour lui. Donc, un jour, après une séance comme ça d'ivrognerie et de violence, Il est parti, il a suivi une troupe itinérante de théâtre. Il a fait une année comme ça à travers les États-Unis, truc amateur. Et puis un an plus tard, il est arrivé à New York, en plein centre de Manhattan, et avec une petite valise et rien, quoi, $3 en poche. Mais il avait quelque chose qui le rendait très riche et qu'il avait des choses à dire et des choses à écrire. Il a trouvé des petits boulots, des amis, il a vivoté comme ça, il s'est mis à écrire tout de suite des pièces en un acte, des trucs qu'il écrivait la nuit, au travail, en un jet ou deux. Et il se trouve que ces pièces ont tout de suite intéressé. Donc il a très vite été joué dans des petits théâtres underground de New York, mais ça allait de mieux en mieux pour lui, donc il continuait à écrire, il écrivait très facilement, il avait une énergie créatrice, ça bouillonnait, donc il pouvait écrire plusieurs pièces de théâtre en un mois. Alors tout n'était pas joué, mais il commençait à avoir une audience particulière. Et puis jusqu'à ce que vraiment ces pièces deviennent importantes et qui commencent à avoir un succès, voilà, qui déborde de New York et puis aussi qui s'étendent à travers les grands théâtres du pays. Voilà, c'était une époque bouillonnante. Tous les grands acteurs qu'on connaît aujourd'hui commençaient à jouer, donc ils commençaient à jouer avec Harvey Keitel, avec tous les grands acteurs qu'on connaît, qu'on voit aujourd'hui dans les films. Enfin, ils avaient le même âge et ils jouaient comme ça ces pièces. Et puis lui, après un certain succès, il s'est marié d'abord avec une fille plus jeune que lui, dont le père de cette fille est devenu son meilleur ami, Johnny Dark. Il n'était pas bien et malgré ce succès, il vivait très mal, il buvait pas mal, il se défonçait pas mal. Il sentait qu'il y avait en lui des choses à éclaircir, des choses qu'il tiraillait. Et évidemment, il avait l'intuition que c'était toute son enfance qui remontait et qui l'empêchait d'être qui il était vraiment. Il est parti en Angleterre pour rompre avec cette vie new-yorkaise après une histoire d'amour avec Patti Smith qui a duré un an, une passion comme ça, brève mais intense. Et il est parti avec sa femme et son jeune garçon en Angleterre pour quitter les États-Unis, mais aussi pour se retrouver en quelque sorte autre part, dans une autre culture. Il a passé 3 ans là-bas où toutes ses pièces étaient jouées dans les plus grands théâtres anglais. Donc voilà, il continuait à écrire, à avoir un succès important. Et puis au bout de 3 ans, il a compris que voilà, il était temps pour lui de revenir aux États-Unis. Entre-temps, je dois dire qu'il a rencontré l'enseignement d'une sorte de gourou spiritualiste qui s'appelle Gurdjieff, qui à l'époque, qui c'était un type qui, comment dire, qui une sorte de spiritualiste qui enseignait une sorte de méthode qui alliait des exercices physiques et aussi la pensée qui rassemblait toutes les pensées orientales, les pensées mystiques, qui étaient destinées à mieux se connaître. C'était un instrument de connaissance. C'était en gros, son concept, c'était qu'on vit tous comme des robots, de façon, on dort, et on n'accède jamais à une pleine conscience de soi-même. Et c'est en gros comment mieux accéder à une conscience de soi et jusqu'à une pleine conscience de soi, c'est-à-dire à ne faire qu'un et à parler de sa propre voix. Donc tout ça le travaillait. Il est revenu aux États-Unis, il s'est installé dans un ranch en Californie, à côté de San Francisco. Et il a vécu avec son beau-père, avec sa femme, comme avec une tribu. Et là, il continuait à jouer, à écrire des pièces qui étaient montées au Grand Théâtre de San Francisco. Et on est venu le chercher pour son premier rôle. Terrence Malick est venu le chercher parce qu'on avait parlé de lui à Malick en disant « il y a un type incroyable, Sam Shepard, il dégage quelque chose de singulier, il est magnétique, enfin, il faut absolument que tu le rencontres, parce que vraiment, ça va devenir une star, c'est pas possible autrement. » Malick est allé le voir pour lui proposer le rôle des Moissons du Ciel, et Shepard a refusé, parce qu'il a dit « Oh non, moi, c'est pas du tout mon truc, le cinéma, je suis écrivain avant tout. » Il voulait surtout pas être considéré comme un acteur qui écrit des pièces. Ça, pour lui, ça aurait été un échec. À la limite, un écrivain qui fait de temps en temps des films, c'était mieux. C'est ce qu'il a toujours cherché. Enfin bref, il a fait le film avec Malick et ça a été un succès. Et on l'a repéré, donc tout de suite, il a eu beaucoup de propositions qu'il a refusées et puis aussi qu'il a acceptées pour des raisons financières, parce que lui, il avait un ranch à faire tourner, il élevait des chevaux, il avait besoin de temps pour lui, pour écrire. Il a toujours dit, pour moi, c'est une phrase qui a été un déclic, je veux faire du cinéma pour pouvoir nourrir mes chevaux et avoir du temps pour écrire. Donc il était déjà tourné vers l'écriture complètement. Enfin bon, son succès est venu presque malgré lui, il est devenu un sex symbole jusqu'à ce que il fasse le film de l'étoffe des héros, qui là, il a été nommé aux Oscars, il a fait la couverture de tous les magazines américains, il était placardé sex symbole. Après, encore plus fort, parce que quand il a rencontré Jessica Lange, c'était devenu un couple glamour, vraiment, et les paparazzi étaient toujours après eux, et lui a toujours refusé, pour ça que je parle d'un mystère, Shepard a toujours refusé de donner à la presse. Il a toujours cherché à se cacher, à préserver ce qu'il était, à rechercher l'anonymat, le silence, une qualité de vie et ne pas faire ce jeu d'Hollywood. Donc à l'époque, il aurait pu devenir Brad Pitt en quelque sorte. On lui a proposé des films incroyables et non, il a toujours refusé, préférant une sorte d'intégrité intellectuelle et morale pour pouvoir écrire.
Et on va parler évidemment de sa rencontre avec Jessica Lange, mais vous avez évoqué son arrivée à New York, ses débuts d'auteur, ses débuts au cinéma. Mais quand il était jeune, Sam Shepard, il se rêvait rockstar. Il rêvait d'être le batteur des Stones ou des Beatles.
Oui, ce qu'il a été un temps, hein, parce que son père lui a offert une batterie quand il était gamin, donc il est arrivé à New York, il a toujours écouté beaucoup de musique et il s'est retrouvé, il a rencontré des musiciens et il a été un temps batteur d'un groupe de rock qui a eu un certain succès puisque c'est les Holy Modal Rounders dont un de leurs titres figure sur la bande originale de Easy Rider, donc ils ont eu leur heure de gloire. Shepard a été en tournée avec eux, ils ont même enregistré deux albums ensemble et après une longue tournée, fatigante.
Il s'est rendu compte que c'était pas pour lui.
Il est rentré à New York en se disant déjà il avait pas gagné un centime, il était fatigué, ça avait été épuisant, que peut-être c'était pas la vie qu'il s'imaginait. Mais il avait quand même vécu ce rêve en quelque sorte. Il pouvait après se consacrer pleinement à l'écriture.
Et la musique reste importante pour lui.
Et la musique est restée toute sa vie importante. Il jouait de différents instruments, il écoutait beaucoup de musique, il a même, je crois que c'est un des rares à avoir écrit des textes et travaillé avec Bob Dylan. Et je crois qu'au-delà de la musique, ce qui pourrait aussi définir Sam Shepard, c'est le rythme. Toujours, il a cherché le rythme, tout le temps, en toute chose. Et quand on le lit, on le comprend. Il avait une sorte de groove comme ça en permanence, comme un batteur peut l'avoir en lui. Et tout était mouvement, tout était rythme, tout était... C'est des choses qu'on retrouve dans l'écriture.
Et je vous propose qu'on écoute tout de suite Nouvel extrait où il est question de musique.
Certaines nuits, le Chelsea se change entre un fantôme. Des manuscrits et des dessins finissent en confettis. Patti Smith attise le feu en convoquant son ex-amant, le poète Jim Carroll. La jalousie et la violence rôdent à l'aube quand elle ne jure plus que par les saints et les criminels, tous prêts à tuer ou à mourir. Elle convoque le Christ, Cain et Jean Genet. Entre performances et séances de magie noire, elle se métamorphose en corbeau gothique. Sam est à 100 lieues de cette vision romantique de la vie d'artiste. Un soir, il trouve un prétexte pour quitter l'hôtel. L'air lui manque, 7e avenue, les poings serrés. Il marche contre la bruine, traverse des rues qui luisent sous les enseignes qui ne s'éteignent jamais. Il essaie de voir les choses comme elles sont. Il se surprend à penser qu'il ne respecte pas sa propre parole. De quelle parole s'agit-il au juste ? L'idée lui vient de téléphoner à sa mère. Il a toujours aimé sa voix. Sa mère qui a toujours pris sa défense, qui s'est toujours rangée de son côté. Mais la Californie est loin et il est tard. Le besoin de retrouver son univers, sa propre dynamique, lui tombe sur les épaules. Patty cherche un chevalier, dit-elle. Il n'a rien de l'emploi. Les pâtés d'immeubles défilent, la barre sur son front s'allège. Pas même un peu de coke à sniffer, et c'est satané morpion que lui a refilé une mannequin de chez Vogue. Au niveau de la 3e rue, une petite assemblée est ramassée sous l'auvent du Blue Note. Renseignement pris, Art Pepper, invité pour deux soirs, sera de retour pour un nouveau set après 10 minutes de pause. Art Pepper. Il se souvient de son disque mythique enregistré avec The Rhythm Session, les musiciens en or de Miles Davis, un album usé au-delà du sillon dans la chambre de ses copains du lycée. Comment passer son chemin ? Il se mêle au public et entre dans le club où un tabouret semble avoir été placé là pour lui. Le quartier tarde à réapparaître, la salle remue, siffle. Art Pepper arrive enfin, alto en main, mal en point. Mais dès les premiers accords de Body and Soul, il s'éclaire de l'intérieur, se métamorphose. Ses chorus sont des balles, des rayons de soleil. La salle est subjuguée. Soit je fais fuir les gens, soit ils viennent voir de plus près. Ce soir, vous êtes tout prêts. Pepper sourit sous les applaudissements, ses yeux de junkie brûlent. Il entame Round Midnight. Sam comprend qu'il devait passer par là cette nuit. Avec son style unique, Pepper joue pour lui ce soir, comme s'il lui confiait un secret. Entre chaque titre, Art lâche une considération, une anecdote tirée du fond de sa vieille vie. Un morceau composé en prison, raconte-t-il, et joué comme pour contrarier le destin, renverse tout le monde. Acclamé, il remercie longuement. Sa voix tremble, son visage est couvert de sueur. « Merci, merci à vous. J'ai toujours besoin qu'on me considère comme un artiste. Je sais, le mot est grandiloquent, mais pas ce soir. Ce soir, je veux être plus qu'un musicien de jazz. Je veux vous faire entendre ce qui se passe vraiment. Je veux vous faire ressentir la joie et la tristesse. » Le prochain morceau s'intitule « Our Song ». Pepper joue à fond, le bec de son saxo enfoncé jusqu'aux entrailles. Après s'être ouvert les veines, Art Pepper ouvre son cœur. Sidéré, Sam oublie Chuck Berry et Little Richard, les Who, les Stones, les vieux Yardbirds, Creedence, Janis et Jimmy. Ce type qui a passé sa vie à foutre le feu entre le monde et lui et qui tuerait s'il ne jouait pas ce soir, en trouve une trappe au fond de son âme. Il est tard et il pleut. Sam ne sait pas où rentrer. D'une cabine, il appelle son ami guitariste du Velvet Underground. Lou, c'est juste pour la nuit.
Rodolphe, dans ce roman, et je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte avec les extraits qu'on a pu écouter jusqu'à présent, on sent vraiment Sam Shepard, on l'entend, on a le sentiment de le voir vivre, on a le sentiment de faire une vraie rencontre. Alors, c'est en partie parce que c'est un roman extrêmement bien documenté, un récit bien documenté, mais aussi parce que l'écriture est extrêmement vivante. Comment est-ce qu'en tant qu'auteur, on appréhende le fait d'écrire sur quelqu'un qui écrit ?
D'abord, merci beaucoup, parce que ce que vous dites, c'est important pour moi, ça me touche. En fait, c'est là tout l'enjeu, c'est de rendre la vie de Shepard vivante. Je ne suis pas biographe, je ne sais pas... J'ai pas de distance avec lui. Et tout l'enjeu du livre, c'est de nous le rendre présent, de nous le rendre vivant, de l'entendre, d'entendre sa voix, de le sentir, de le regarder vivre dans ses bonheurs et ses malheurs. Et c'est de créer une vraie rencontre. Parce que sinon, j'ai loupé mon projet. C'est de donner au lecteur le sentiment d'avoir réellement rencontré Sam Shepard et d'avoir traversé sa vie avec lui. Et vous avez raison, ça passe par l'écriture. J'essaye de rendre les choses les plus vivantes, les plus... peut-être les choses les plus simples, mais ça passe par une grande précision, je crois. C'est une question de rythme, de précision, de vision. Ce sont des visions personnelles que j'ai de Shepard. Mais j'ai l'impression d'avoir été connecté à lui, de m'être greffé à son système nerveux et d'avoir parfois vu par ses yeux. Donc il fallait déjà une sorte de compréhension du personnage pour le donner à vivre, simplement. Et après, essayer, oui, de souffler là-dessus pour que ça prenne un peu feu.
Et je parlais de la documentation aussi. Il y a une personne que vous avez évoquée tout à l'heure qui est extrêmement importante, à la fois dans le roman, mais j'imagine dans son écriture même. C'est Johnny Dark, la personne qui a le mieux connu Shepard. Et c'est même Sam Shepard qui dit à votre narrateur d'aller voir Johnny Dark, et il le prévient. Johnny commencera par te dire qu'il n'a jamais su si je fuyais le diable ou bien si je lui courais après.
Ben oui, parce que même pour quelqu'un qu'il connaissait bien, Shepard restait un mystère. Donc effectivement, Johnny Dark qui a été son beau-père le temps où il était marié avec sa fille, avec Olan. Mais ils sont restés amis tout au long de la vie de Shepard. C'était son meilleur ami. Ils ont échangé beaucoup de lettres où ils se confiaient totalement. Ils étaient en toute confiance. Ils pouvaient parler de leur manque, de leurs échecs, enfin de ce qui les travaillait en toute liberté, et je pense qu'ils se sont dit des choses que Shepard n'a jamais dit à personne d'autre. Donc c'était un document très riche pour moi qui m'a permis de m'approcher au plus près de Shepard et aussi de trouver son souffle. On parlait d'écriture tout à l'heure, et voilà, c'est rendre le souffle de Sam Shepard. Ça, c'était important.
Et on va justement tout de suite écouter une lettre de Sam Shepard, envoyée donc à Johnny Dark. Sam Shepard a rencontré Jessica Lange et quitté femme et enfant. La lettre sera suivie d'un deuxième extrait dont je vous laisse découvrir la teneur.
À part ça, mon monde intérieur est toujours aussi mouvant. La famille me manque, et Jessie et Olan, et vous tous, et les chevaux. Parfois, une lame de tristesse me rentre dans les reins. Ce qui me fait le plus mal est ce sentiment de vous avoir abandonné, de m'être tiré et de vous avoir laissé en plan, de vous avoir trahi. Surtout Olan. Ah, cet accent de désespoir dans sa voix au téléphone. Je le sais, une parole n'a pas été tenue et des larmes doivent couler. Pourtant, aucun retour en arrière n'est possible. Il y a aussi une sorte de légitimité dans le fait d'avoir pris cette direction que je ne peux pas nier. C'était ce chemin et aucun autre. J'aime cette femme d'une façon que je ne peux pas décrire, et ce sentiment transcende tout ce merdier et toute cette peine. Je dois faire avec ça, malgré ça. Ne crois pas que j'ai été envoûté par une pavane vaudou. Au contraire, cette femme me rend à moi-même, me ramène à des endroits que j'avais oubliés, perdus ou que j'ignorais. Il me semble qu'avant de la connaître, je ne pouvais pas même parler. Ce que je vis est plus fort que ce que j'exprime là. Je me retourne sur ces 10 années passées en Californie et je me vois traquer désespérément quelque chose sans jamais mettre la main dessus. Je sais que le point de vue du travail est vrai. Cette vie que je cherche est à l'intérieur. Rien à l'extérieur ne peut répondre à notre aspiration. Personne n'appartient à personne. Personne ne sauve personne. Il serait fou de tomber amoureux en pensant qu'on va être sauvé par l'autre. Pourtant, Jessica atteint quelque chose en moi. Une part de moi-même se sent toute nouvelle. Réveillé. Je sais aussi que tout est fragile, que les choses peuvent se retourner et vite, qu'il y aura sans doute des moments de profond regret. Mais la vie est un pari. Highway is for gamblers, tu connais la chanson. Et la seule mise possible, banco, de tenir seul l'enjeu face à la mort. Je l'ai compris le jour où je suis parti pour de bon. J'ai quitté cette maison pour m'enfoncer dans l'inconnu et ça m'a fait peur. Mais dévier de cette route, toute tracée, m'a donné un frisson que je n'oublierai pas. Je le sens encore à cet instant dans mes os, tout comme la terreur. J'ai compris que cette peur était de se retrouver seul dans ce monde, et ça a pris un sens nouveau. Tu peux être seul au milieu des gens, ou tu peux être seul et rejoindre la solitude de l'autre. Une véritable rencontre entre la part manquante de chacun est possible. Bon, je ne suis pas à rêver de parures de lit et de pelouses bien tondues, mais voilà où on en est. Hier, j'ai lu un livre passionnant sur l'histoire des Indiens. Comment un pays peut-il vivre avec ce génocide sur la conscience ? Et la conquête de l'Ouest à travers le regard de Kit Carson, qui a combattu les Indiens avant de les défendre, aux côtés de Narbona, le grand chef Navarro. Puis je suis sorti marcher une bonne heure dans l'air sec. J'ai repéré toutes sortes d'empreintes, loups, cerfs, poules sauvages. Le bruit de mes pas écrasant la neige glacée, le craquement des branches et mon souffle saccadé créaient un rythme que le silence de la forêt amplifiait. Au retour à la vue du chalet, je me suis arrêté, là, pour quelques instants. Je me suis senti en accord avec moi-même. Le désir, l'amour, la vie se rejoignaient. Je ne faisais plus qu'un. J'étais tout. Je ne pense pas que la vie vaille toute cette douleur, ces efforts et toutes ces luttes si on n'a pas quelqu'un à aimer profondément. Bordel, sur quelle femme suis-je tombé ? À plus tard sur la route. Sam. Jessica guette le bruit du camion qui s'engage sur le chemin de la ferme. Elle aime Sam. La façon dont il bouge, dont il parle. Quelque chose dans sa présence l'hypnotise, sa voix l'apaise. Ses silences ne l'effraient pas et ses clins d'œil la rassurent. Elle aime la façon dont il sirote sa tasse de café, la position de ses mains, le mouvement de ses lèvres. Qu'il se lève et l'espace autour de lui devient le sien. Elle aime son calme et sa fougue. La veine gonflée sur sa tempe, seulement visible dans son sommeil. Se réveiller dans la nuit et le sentir près d'elle. Sans oublier la manière dont il joue du banjo en caleçon dans la cuisine pour faire rire l'attablée en mimant le déhanché provoquant d'Elvis Presley. Elle aime l'autorité tranquille avec laquelle il renvoie l'adjoint du shérif qui s'approche de chez eux sans motif. Le type ne se pointera plus sans mandat, c'est sûr. Ou celle avec laquelle il mate un cheval vicieux. Elle aime qu'il reste en retrait, son intensité, sa force viennent de l'intérieur. Il comble cette fissure par où l'insécurité et la solitude s'infiltraient en elle. Et elle aime qu'il patrouille des heures la nuit avec un thermos de café à la recherche d'un chien qui s'est fait la malle alors qu'il prenait de l'essence et le voir revenir au petit matin avec l'animal, le semblant de coups de pied qu'il lui envoie d'abord dans les côtes et le soin avec lequel il retire les épines d'eucalyptus qui criblent ses pattes. Elle aime le savoir écrire à l'étage et apprécie ce qu'il écrit, ses poèmes, plus que tout. Que leurs enfants lui ressemblent est une joie. Elle est entrée dans son champ magnétique et voudrait ne jamais en sortir. Elle aime que d'un regard, il provoque sa sueur. La première fois qu'elle s'est offerte à lui, comme elle avait picolé, Sam a préféré reporter les ébats, pas prêt à galvauder cette rencontre tant attendue. À moitié nue, elle a insisté, il a tenu bon. Profiter d'une femme ivre n'est pas dans ses cordes. Le lendemain, elle s'est réveillée contre cet homme qui n'a pas cédé pour l'aimer plus encore. Au début, elle voulait partager son bol de céréales du matin. Il lui a dit qu'avoir chacun son bol était préférable, et elle a trouvé ça juste. Qu'il porte sur lui-même, sur les choses, sur les autres, un regard maintenu à une certaine distance l'impressionne. Elle bénit l'odeur de sa peau. Elle croit en lui. Près de Shepard, comme elle l'appelle, elle glisse dans un bain chaud. Elle aime raconter qu'un jour, il a endormi une jument en lui caressant une paupière, comme ça, devant elle. Et elle l'aime malgré elle, parfois.
Quelle rencontre, quel amour.
Une passion tumultueuse.
C'est une rencontre vraiment décisive. On parlait de Johnny Dark tout à l'heure. Son beau-père, même lui, lui dit « Mais oui, vas-y, en fait, c'est ce que tu dois faire. Il faut répondre à cet appel-là et cette passion-là. »
Oui, ça a été plus fort que tout. C'était impérieux. Il a rencontré sur un producteur, les a présentés pour préparer un film, Frances, dont Jessica Lange avait le rôle principal. Et voilà, à la première rencontre, ça a été le choc. Et ils ont su, et l'un et l'autre, que leur vie allait basculer. Ils étaient tous les deux mariés. Lui avec Olan, elle était mariée avec Baryshnikov, le danseur. Mais ils ont su très vite que leur chemin passait l'un par l'autre. Et ça a été difficile parce qu'ils étaient engagés dans des vies de famille, ils avaient des enfants. Mais ils sont rencontrés, et ils ont vécu une histoire, une passion pendant plus de 20 ans. Et je crois que, et pour l'un et pour l'autre, ils resteront la plus belle histoire de leur vie.
Vous disiez tout à l'heure, je lisais un extrait où vous racontiez comment est-ce que les premiers textes de Sam Shepard ont immédiatement fait écho en vous. Et vous écrivez dans ce roman ce que sa vie, dont une grande partie relève du mystère, parle de lui, de Sam Shepard, de l'Ouest et de ses fantômes, mais peut-être aussi de pas mal d'entre nous. Dans la solitude des grands espaces, en lisière de désert ou le long des frontières comme partout ailleurs, la peur, la culpabilité, l'amour, la désillusion restent nos matières premières. Et c'est vrai que quand on lit aussi par rapport à cette histoire d'amour, on sent quelque chose, on revient sur des choses qu'on a dites, mais qui sont tellement puissantes et tellement importantes. Et quand on parle de solitude, bien sûr, il y a tout ça dans nos vies à tous, ces moments de solitude, ces grands amours. C'est quelque chose que je trouve très fort aussi dans ce texte, c'est la façon dont vous nous dites. Sam Shepard, effectivement, parle de nous tous en réalité.
Mais oui, parce qu'il parle de ce qu'il a vécu, et on vit tous les mêmes passions, je crois, hein, à peu de choses près. La vie, l'amour, la désillusion, et tout ça irrigue ses textes, tout ça. Et forcément, ça ne peut que nous rencontrer, parce qu'il arrive à mettre des mots, à mettre des images sur des choses que nous, peut-être, on n'y arriverait pas. Donc, il parle pour nous. Et c'est la force des très grands auteurs, hein, avec, encore une fois, une sorte de simplicité, de fluidité. Mais c'est vécu. Et chez lui, la pensée, l'émotion coïncide avec l'expression. C'est la marque des très grands, c'est jamais à côté, c'est jamais approximatif. Il dit à chaque fois exactement la chose comme elle doit être dite. Et ça nous touche tout de suite, ça nous percute. Et ça, c'est pour moi la marque des très grands.
Jean-Philippe, je vous laisse nous lire un nouvel extrait.
La méditation, parfois un simple examen de conscience, occupe le reste de son temps. Étrange. Il ne s'est pas penché sur les exercices du travail et ne s'est pas rendu à aucune rencontre depuis des mois. Des mois qui lui paraissent des années. Il sait ce que signifie être présent et connaît les penchants de son âme. Tout autre questionnement s'est dissous comme un nuage de fumée. Il est prêt à avancer seul. Peut-être brûlera-t-il en enfer. C'est un homme qui cherche, donc un homme qui change. Et tout ça lui donne du jus, de l'espoir et même de la joie. Au printemps, il se lève vers 6 heures et prend le frais, le porche. La lune rouge vire au blanc argenté en 1 heure à peine. Il marche dans le jardin, une tasse de café à la main, scrute l'épanouissement des pivoines, l'avancée des lilas, des iris, et se cale dans son fauteuil Adirondack pour lire les mémoires de Carl Jung, jusqu'à ce que le soleil lui chauffe le front et que son café soit refroidi depuis longtemps. Être conscient du monde, du moindre souffle, du moindre instant. Ce souffle est tout ce qu'on a. Les soirs d'automne, dans les crépuscules violets d'octobre, il gratte des accords de banjo, une mixture de country et de blues qui flotte dans l'air du Kentucky. Plus tard, il fixe la nuit, reste en elle. Parfois, il appelle Val Kilmer, Alexander Zimmer, Sam Walken, Lou Reed ou Harry Dean Stanton, des âmes sans sommeil comme lui. Ces matins et ces nuits-là, il veille sur tout le monde. Il revient aux autres, à cet amour si important pour lui. Il l'aime mieux à bonne distance.
C'est un moment très, très beau. On parlait tout à l'heure de solitude. Ces moments où un retour à soi-même. Et j'imagine que dans l'écriture aussi, ça a été des moments assez intenses à écrire, justement, d'un seul coup, être dans un moment où on ne sait rien, en réalité, de ces moments-là, et d'être vraiment à ses côtés, alors que lui est en lui-même.
Oui, mais c'était pour moi important de rendre cette dimension. Le passage qu'on vient de lire fait référence à sa vie, à la fin de sa vie, quand, une fois séparé de Jessica Lange, il s'est acheté une petite ferme dans le Kentucky, où il a vécu seul, où il consacrait tout son temps à l'écriture et à l'élevage de ses chevaux. Et forcément qu'il a dû vivre de grand-maman, parce que dans la solitude et le silence, peut-être aussi en comprenant qu'il avait perdu beaucoup, après sa séparation avec Jessica, il s'est retrouvé face à lui-même, en quelque sorte. Et voilà, il ne pouvait qu'être en prise directe avec lui-même et avec le monde qui l'entourait. Shepard a toujours été très proche de la nature. Donc, il était dans son élément, il appelait ça son sanctuaire, cette ferme là-bas où il vivait à son rythme, où il écrivait à son rythme. Et finalement, ces moments de solitude et de silence lui ont fait vivre des sortes d'épiphanies, en quelque sorte, comme on peut en connaître tous. Et ça passait évidemment dans l'écriture. C'était vraiment une dimension essentielle pour moi de Sam Shepard.
Et il est question justement de la façon dont lui voit le fait de vieillir, c'est-à-dire qu'il dit à votre narrateur qu'en vieillissant, si on ne fait pas attention, on perd en sensibilité, en acuité, on devient objectif. Et finalement, mais il y a un moment où l'idée de rester dans une certaine idée de mouvement, ça va juste plus être possible à cause de la maladie, bien évidemment. Mais on sent aussi ça dans votre récit, la façon dont lui voit ces moments et ce moment où on vieillit en réalité et où il faut être attentif à justement ne pas se laisser aller tant qu'on le peut en tout cas.
Oui, et je pense que toute la fin de vie de Sam Shepard, parce que peut-être beaucoup ne le savent pas, mais il a été atteint de la maladie de Charcot, qui est un truc terrible, qui a duré des années jusqu'à épuisement du système respiratoire et une sorte de paralysie, puisqu'il était paralysé à la fin, et le langage et tout ça. Et pour quelqu'un qui a passé toute sa vie en mouvement, ça a dû être une sacrée épreuve. Et en même temps, je crois que dans cette épreuve, dans cette douleur-là, il se sentait aussi... il sentait en lui une certaine élévation. Ça peut paraître paradoxal, mais je crois que réduit à rien, il lui restait l'esprit et une liberté absolue dans l'esprit. Parce qu'il avait toute sa tête, et je crois qu'il avait une force morale, spirituelle, qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Et il en était conscient. Peut-être parce qu'il avait fait, je crois, la paix avec son passé, avec lui-même, avec ce qu'il avait fait de bien et de mal, avec toute son histoire avec son père, qui l'avait quand même pas mal déglingué tout au long de sa vie. Je pense que il s'était affranchi de tout ça, toutes ces chaînes, et que même malade, même dans un mouvement réduit, il accédait à une liberté intérieure. Et il savait très bien que la véritable liberté, c'est avant tout intérieure. C'est pas de chevaucher dans les grands espaces. C'est avant tout l'acquisition de liberté, d'une liberté intérieure. Et il en était conscient. Et son dernier livre en témoigne, puisqu'il raconte cette épreuve. Et il vit de grand-maman, finalement. Et il n'est pas braqué contre la mort, contre sa disparition, qui est imminente et irréductible. Et je crois qu'il avait atteint une sorte de force, de clarté qui lui permettait d'affronter la mort comme d'un passage, comme une étape de la vie. Il n'était pas braqué contre ça, il n'a pas vécu ses moments dans la terreur, mais dans un total abandon. Et voilà, c'est toute une trajectoire, depuis le gamin de Californie, le batteur de rock, la rock star, l'acteur star et ce cheminement spirituel. C'est ce qui fait la richesse et la singularité de Sam Shepard. C'est ce qui m'a donné envie de raconter sa vie.
Jean-Philippe, je vous laisse nous lire le dernier extrait de ce roman.
Midway. Sam décroche le miroir de la salle de bain qui lui révèle les atteintes du mal. Joues creusées, moins 15 kilos, bouche qui se tord, filet de café qui lui coule au coin des lèvres. Il pense à Humphrey Bogart, malade, qui arrachait sa perruque et ses fausses dents devant des femmes vantant son charisme légendaire. Il contacte avocats, agents et comptables, met de l'ordre dans ses affaires. Ses sorties se réduisent. Derrière son Olympia bleu-gris, les doigts s'engourdissent. Le rythme des frappes ralentit. Il parle à Jessica au téléphone. Certains couples se sont fait moins de mal que nous, c'est sûr, mais beaucoup se sont moins aimés aussi. Elle en convient. Il entend pleurer depuis New York. Le cuisinier mexicain passe livrer les repas, tamales, enquiladas, chili verde, un joint de marijuana au fond du sac. Le soir, Miles Davis et le groove de son Kind of Blue l'entraînent encore. Sous le porche, dans son fauteuil en bois, casquette de baseball, jean usé et la veste de laine offerte par Jessica du temps de Scottsville, Sam lit Proust. Les rouges-gorges chantent pour éloigner les corbeaux de leur nid et veillent sur lui. Le flux des souvenirs et les sensations de sa lecture raniment des cellules endormies. Il se souvient de l'année 1953 à cause de la Chrysler 1953 d'un grand-oncle, d'une traversée du fleuve Colorado, les cheveux bleus de sa grande-tante Gracie, les nuits d'été où il sortait fumer les mégots de Chesterfield récupérés dans le cendrier de son père, puis enterrés au pied d'un mandarinier. Au loin grondait la route 66. Le passé reflue avec une précision de sensations miraculeuses. Jamais il n'avait revu ces images. Il a parfois l'impression d'être surveillé, espion, voyeur, peut-être un détective, à la solde de qui ? Quelqu'un qui voudrait connaître des choses de lui qu'il ne connaît pas lui-même, de ses origines. Il sent sa présence, il entend son souffle. Est-ce que c'est en lui ? Le soir, il rentre pour mettre ses images noires sur blanc, de même que tout ce que l'espion peut deviner de lui en le regardant passer son temps à lire, à parler seul, à manger des crackers en sirotant du thé glacé. Il écrit pour vivre sa vie jusqu'au bout. Des semaines passent encore avant que Sam accepte enfin le soutien de ses sœurs. Les enfants lui trouvent le regard à la fois perdu et confiant. Un fauteuil roulant est livré, sa chaise électrique, plaisante-t-il. Ses muscles ont fondu, dont le diaphragme qui permet de respirer dixit le neurologue de la clinique high-tech nichée en plein désert, où un spécialiste suit sur écran l'avancée de son état. Assis dans son fauteuil, les images échappées de sa mémoire reprennent leur valse. Le matelas moisi où il dormait, avenue C, en compagnie de Mingus Junior, Mohamed Ali en plein combat, Lee Marvin qui s'évade d'Alcatraz et nage contre les courants mauvais de la baie de San Francisco. Puis revient la danse des papillons sur le grand ciel qui l'enveloppe. L'air est doux. Sa vieille couverture Navarro recouvre ses jambes. Un soir, Jesse et Walker portent leur père dans la voiture. Sandy, Roxane et Anna suivent le convoi. Direction El Farolito, un restaurant mexicain où des amis se joignent à eux. Des fils se relaient derrière son fauteuil, le long de East Water Street. Sa fille lui tient la main. Il sent leur force, leur amour. Dans la salle bondée, leur conversation se mêle au brouhaha. Les prochaines élections, ce cinglé de Trump. Leur plus belle prise à la pêche, à la mouche. Ils boivent la meilleure tequila, Oritas, étiquette verte. La nuit est tombée quand ils retrouvent la rue déserte. Dans son fauteuil, Sam fixe la pleine lune. Autour de lui, les éclats de rire et les voix résonnent. Il a gâché des occasions. Un fou furieux déterminé à engendrer un désastre a parfois pris possession de son être. Pas ce soir. L'aide respiratoire devient permanente. Un stock de bonbonnes d'oxygène change le salon en baraque de plongée sous-marine. Ses mains le lâchent. Mais Sam peut encore s'échapper. Lee Marvin, Alcatraz, sortir de là, tresser une corde avec les draps, ramper, se hisser, suivre les lumières de la ville, le Golden Bridge. Il n'a pas fini son livre, pas fini de raconter son histoire. Il griffonne sur du papier, ses forces s'amenuisent, spasmes, souffle court. Il enregistre des fragments dans un dictaphone. Il tient l'antidote à la mort. Bientôt les nuits deviennent difficiles, le sommeil ne repose plus. Sam dérive dans les limbes à mi-chemin entre le monde réel et celui des esprits. À l'aube, le jour se déploie, il respire l'herbe humide, repère les premières taches de soleil sur les lauriers. Ne bouge pas. Laisse parler le vent, c'est le paradis. Lui souffle Ezra Pound. Impossible de se préparer du café ou d'avaler quoi que ce soit sans danger. Sa Gibson ne résonne plus et sa machine à écrire a fini de crépiter. Sensation de dislocation. Il a conscience de sa métamorphose. Un étrange partage s'opère entre son corps paralysé et l'activité de son cerveau. Son esprit n'a plus de barrière. Il peut planer comme un pigargue sur le sommet d'une colline silencieuse et dévorer le cosmos en même temps. Le temps d'un rêve, il marche et parle comme avant. À son réveil, le chien se caresse contre ses jambes mortes. Les temps se confondent. Est-ce la tombée de la nuit ou le lever du jour ? Être là, simplement là, encore là, est sa préoccupation constante. Je veux ébouriffer Edru et m'assier, regard d'aigle bleu glacier, griffe en guise de doigt, Sam a pris un air de Samuel Beckett. Beckett, qui serait devenu un de ses personnages, un corps inerte, une bouche, des mots raréfiés jusqu'à l'extinction, jusqu'au noir. Un jour, le corps de Sam est coulé dans un bloc de béton, bouche scellée, regard plein de mots. Il est nulle part et totalement là, au cœur de cet espace, de ce temps surnaturel. Il trouve une force mystérieuse. Sandy pousse son fauteuil sous le porche. Il perçoit la rumeur de l'été, les visages et les ombres percutent son champ de vision. On s'affaire autour de lui. Jesse et Walker ont coupé les fils barbelés d'une clôture. Les chevaux, Two Trace Sioux en tête, avancent vers lui dans la lumière blanche de juillet. Leurs sabots martèlent le bois de la terrasse. Ils s'approchent assez pour que Sam distingue leur poitrail, leur tête, leur pelote à cajou, pour qu'il empoigne leur crinière.
Vous l'aurez compris à travers tous les extraits que nous avons entendus ce soir, il s'agit d'un livre absolument passionnant, puissant, une lune tatouée sur la main gauche. Peut-être, Rodolphe, un mot de ce titre, une lune tatouée sur la main gauche.
C'est exactement ce qu'avait Sam Shepard entre le pouce et l'index. Un tatouage qu'il avait réalisé au Chelsea Hotel du temps de son histoire avec Patti Smith. Ils étaient amoureux et ils avaient fait venir un tatoueur. Et lui avait choisi une lune, qui est un symbole chez les Indiens Hopi, la lune des jeunes faucons, la lune de novembre, son mois de naissance. Et Patti Smith, elle, avait choisi de se faire tatouer des éclairs sur le genou.
Et je vous propose qu'on se quitte, je vous l'avais promis, avec un texte de Patti Smith, traduit en exclusivité pour le Marathon des mots par Nicolas Richard.
Mon pote, New Yorker, le 1er août 2017. Il m'appelait tard le soir de quelque part sur la route, une ville fantôme au Texas, une aire de repos près de Pittsburgh ou de Santa Fe, garée dans le désert, à écouter les coyotes hurler. Mais le plus souvent, il appelait de chez lui, dans le Kentucky, par une froide nuit calme, quand on entendait les étoiles respirer. Un simple coup de fil tard le soir, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, aussi surprenant qu'une toile d'Yves Klein. Un bleu où se perdre, un bleu qui pouvait vous amener n'importe où. Je me réveillais de bon cœur, me faisais un escafé, et on parlait de tout et de rien, des émeraudes de Cortès ou des croix blanches des champs des Flandres, de nos enfants ou de l'histoire du Kentucky Derby. Mais plus souvent, nous parlions d'auteurs et de leurs livres, des auteurs d'Amérique latine, Rudy Wurlitzer, Nabokov, Bruno Schulz. Gogol était ukrainien, a-t-il dit une fois. Apparemment, comme si l'idée lui venait de nulle part. Seulement, pas de n'importe quelle nulle part, mais de l'éclat d'un nulle part aux nombreuses facettes qui, lorsqu'on le brandissait dans une certaine lumière, devenaient un quelque part. Je reprenais le fil et nous improvisions jusqu'à l'aube comme deux saxophones ténors déglingués, échangeant des phrasés. Il a envoyé un message des montagnes de Bolivie où Matteo Gil tournait Blackthorn. L'air était raréfié là-haut, dans les Andes, mais il s'en sortait bien, résistant mieux que ses collègues plus jeunes, chevauchant certainement plus longtemps, montant pas moins de 5 chevaux différents. Il a dit qu'il me rapporterait un sarapé, un noir, avec des bandes de couleur rouille. Il chantait dans ces montagnes, près d'un feu de joie, de vieilles chansons écrites par des hommes brisés amoureux de leur propre nature, en train de disparaître. Enveloppé dans des couvertures, il dormait à la belle étoile, à la dérive, sur les nuages de Magellan. Sam aimait être en mouvement. Il fourrait une canne à pêche ou une vieille guitare acoustique sur la banquette arrière de son pick-up, prenait éventuellement un chien, mais à coup sûr un calepin, un stylo et une pile de livres. Il aimait faire ses bagages et partir comme ça vers l'ouest. Il acceptait volontiers un rôle qui l'amenait quelque part où il ne voulait vraiment pas aller, mais un endroit dont il finirait par apprécier l'étrangeté, du matériau pour une œuvre future. À l'hiver 2012, nous nous sommes retrouvés à Dublin, où il recevait du Trinity College le diplôme du docteur honoris causa es lettres. Ce type de distinction le gênait souvent, mais il a accepté de bon cœur, celle-ci émanant de l'institution où Beckett avait déambulé et étudié. Il adorait Beckett, et avait quelques textes écrits de la main de Beckett, encadrés dans sa cuisine à côté de photos de ses enfants. Ce jour-là, nous avons vu la machine à écrire de John Millington Synge et les lunettes de James Joyce. Le soir, nous avons rejoint des musiciens au Cobblestone, le pub local préféré de Sam, sur l'autre rive du fleuve. Tandis que nous titubions gaiement sur le pont, il a récité moult passages de Beckett qui lui venaient à l'esprit. Sam m'avait promis un jour qu'il me montrerait le paysage du sud-ouest des États-Unis, car j'avais beau avoir beaucoup voyagé, je n'avais pas vu grand-chose de notre propre pays. Sauf que pour Sam, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Atteint d'une maladie dégénérative, il a dû cesser de faire ses bagages et partir. À compter de ce moment-là, je lui ai rendu visite, et nous lisions et discutions, mais surtout nous travaillions. Peinant sur son dernier manuscrit, il puisait courageusement dans des réserves de vigueur mentale pour affronter chaque défi que le destin lui lançait. Sa main, avec un croissant de lune tatoué entre le pouce et l'index, reposait sur la table devant lui. Le tatouage était un souvenir de nos jeunes années. Le mien, un éclair sur le genou gauche. En relisant un extrait décrivant le paysage du Grand Ouest, il a soudain relevé la tête et dit « Je suis navré de ne pas pouvoir t'amener là-bas ». Je me suis contenté de sourire car, d'une certaine manière, il m'y avait déjà amené. Sans un mot, les yeux clos, nous randonnions dans le désert américain qui déroulait un tapis de toutes les couleurs, terre safran, puis brun roux, même la couleur de l'herbe verte, une verdure dorée, et ensuite, soudain, un bleu presque inhumain. « Du sable bleu, ai-je dit, tout émerveillé. Du bleu partout, a-t-il dit. » Et les chansons que nous avons chantées avaient une couleur bien à elles. On avait notre rituel, on se réveillait, on se préparait pour la journée. On buvait un café, on grignotait quelque chose. On se mettait au travail, on écrivait. Puis on faisait une pause, à l'extérieur. On s'asseyait dans les fauteuils de jardin en bois et on contemplait le paysage. On n'était alors pas obligé de parler, et ça c'est l'amitié véritable. Jamais de malaise avec le silence, qui dans sa forme bienveillante n'est qu'une extension de la conversation. Nous nous connaissions depuis si longtemps. Nos manières ne pouvaient être définies ou discréditées par quelques mots décrivant une jeunesse insouciante. Nous étions amis, bons ou mauvais, nous étions juste nous-mêmes. Le passage du temps n'a fait que renforcer cela. Les défis s'intensifiaient, mais nous avons continué. Il a terminé son travail sur le manuscrit, maintenant posé sur la table. Tout a été dit. On n'a rien laissé de côté. Quand je suis parti, Sam lisait Proust. De longues et lentes journées s'écoulèrent. C'était une soirée du Kentucky emplie de la lumière dardée par les lucioles, du chant des grillons et des chorus coassés des grenouilles taureaux. Sam a marché jusqu'à son lit, s'est allongé et s'est endormi d'un sommeil stoïque. Noble, un sommeil qui a conduit à un moment sans témoin, tandis que l'amour l'entourait et respirait le même air. La pluie tombait lorsqu'il a rendu son dernier soupir, paisiblement, ainsi qu'il aurait souhaité. Sam était un homme qui tenait à son intimité. Je sais une chose de ces hommes-là, il faut les laisser tenir les rênes, même à la fin. La pluie tombait, masquant les larmes. Ses enfants, Jesse, Walker et Anna, ont dit au revoir à leur père. Ses sœurs, Rowan et Sandy, ont dit au revoir à leur frère. J'étais loin, debout sous la pluie, devant le lion assoupi de Lucerne, un lion colossal, noble, stoïque, sculpté dans la roche d'une falaise peu élevée. La pluie tombait, masquant les larmes. Je savais que je reverrais Sam quelque part dans le paysage du rêve, mais en cet instant, je me suis imaginé de retour dans le Kentucky, avec les champs ondoyants et le ruisseau qui s'élargit jusqu'à devenir une petite rivière. J'ai visualisé les livres de Sam, alignés sur les étagères, ses bottes le long du mur, sous la fenêtre de laquelle il regardait les chevaux paître près de la clôture en bois. Je me suis vu moi-même assise à la table de la cuisine, étendant le bras pour attraper cette main tatouée. Il y a longtemps, Sam m'a envoyé une lettre, une longue lettre, dans laquelle il me parlait d'un rêve dont il espérait qu'il ne se finirait jamais. Il rêve de chevaux, ai-je dit au lion. Arrange ça pour lui, tu veux bien? Fais en sorte que Big Red l'attende, un véritable champion. Il n'aura pas besoin de sel. Il n'aura besoin de rien. Je me suis dirigé vers la frontière française. Un croissant de lune s'élevait dans le ciel noir. J'ai dit au revoir à mon pote, l'appelant dans le vide de la nuit.
Merci, Jean-Philippe Ricci. Merci beaucoup, Rodolphe Barry. merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette soirée avec nous. Bonne soirée.